France Musique.
Moi j'aime bien, c'est pour vous accueillir de manière très légère, comme ça.
Ça me va très bien, là, hein. Mais je vais alourdir l'ambiance,
ah,
Saskia,
vous avez pas vu, toi.
Avec ce qu'on va écouter maintenant.
Quelque chose me dit que cette femme n'est pas très heureuse.
Ah là 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 là, ça se termine très mal cette histoire. Elektra, tout le monde aura reconnu, Richard Strauss. J'ai voulu laisser un peu d'applaudissements par pur narcissisme parce qu'il y avait les miens dedans. vous m'avez reconnu d'ailleurs.
Bien, là, oui.
C'était le 3 août 1995 à Montpellier. Elektra, Léonie Rizanek, Hildegard Behrens, Luana de Wolf, Friedemann Leier qui dirigeait. Ce que vous n'entendez pas, ce que vous ne voyez pas plutôt dans cet extrait purement sonore, c'est que en plus des ovations qu'on a entendues, le public s'est levé d'un seul coup. Pas progressivement, parfois les ovations debout, vous avez une, deux, trois personnes qui se lèvent et finalement les gens suivent. Là, je crois que c'est tout le quorum de Montpellier, car c'était au Festival de Montpellier que ça s'est passé. C'était une version de concert. C'est peut-être une des plus belles Elektra que j'ai entendues, avec une autre. Cette saison-là, début de saison 17-18, à la Philharmonie de Paris, Mikko Franck, qui dirigeait Elektra lui aussi avec Nina Stemme, en version de concert aussi. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'insiste lourdement? Pour vous dire que la version de concert à l'opéra a le vent en poupe. J'ai fait quelques statistiques sur la saison qui se termine maintenant, nous sommes fin juin. Au Théâtre des Champs-Élysées, il y a eu 12 opéras en version de concert et à la Philharmonie de Paris, 8. Ça fait 20 en tout, si je sais encore calculer.
Voilà, quand on dit version de concert, donc c'est sans mise en scène.
Exactement, sans décor, sans costume, l'orchestre sur scène et les chanteurs à l'avant-scène. C'est un procédé qui suscite les polémiques ou au contraire une adhésion inconditionnelle. Vous avez aussi bien les gens qui vont dire c'est une hérésie parce que l'opéra c'est du théâtre et en renonçant à la mise en scène on renonce à l'aspect théâtral. Et vous avez une autre frange du public qui dit enfin nous sommes débarrassés de ces mises en scène modernes qui trahissent les œuvres. Ça, il y a beaucoup de nos auditeurs qui m'écrivent parce que vous savez que je les défends plutôt, moi, les relectures en général si elles sont audacieuses et inventives. Donc moi qui aime le théâtre à l'opéra, je devrais être frustré par une version de concert. C'est pas le cas. Je les aime beaucoup. Et j'aimerais inviter nos auditeurs à réfléchir à pourquoi on aime une version de concert. Pas pour de mauvaises raisons, parce qu'on est enfin débarrassé de la mise en scène. Non, pas du tout. Parfois même, je veux vous dire, je préfère une version de concert à une mise en scène banale et pas très intéressante, comme on en a beaucoup. Non, je les aime, et pas seulement parce que c'est économique. Pour ça, c'est pour les théâtres, plutôt. Ça coûte moins cher. Vous n'avez pas de décor, vous n'avez pas de costume. Non, je les aime pour deux raisons principales, parce qu'elles font appel à l'imagination de l'auditeur. Vous vous faites votre propre mise en scène. Vous vous racontez l'histoire à votre manière. Quand vous voyez les chanteurs en randonnion devant vous et en smoking ou en robe du soir, c'est à vous de vous faire votre représentation. Et c'est une invitation formidable à la liberté de l'écoute et de la vision. Et il y a une autre raison pour laquelle les versions de concert sont passionnantes, c'est que elles mettent la musique au centre. Et souvent, ça n'est pas du tout au détriment du théâtre. Vous avez d'ailleurs plusieurs types de versions de concert. Vous avez celles où les chanteurs sont vraiment derrière leur pupitre et chantent sans bouger, sans incarner, et d'autres où ils incarnent vraiment le personnage. Ils bougent, ils échangent des regards, voire ils entrent et ils sortent de scène. Et la musique devient le centre d'intérêt primordial, et notamment un des aspects de la musique qui pour moi est très souvent et trop souvent le grand oublié des amateurs d'opéra, c'est l'orchestre, qui est relégué dans la fosse lorsque vous assistez à une représentation et qui ici est en pleine lumière. Et quand on écoute par exemple du Wagner ou du Strauss comme ici, c'est absolument passionnant. Et il y a eu de magnifiques versions de concert cette année dans la saison qui parfois effectivement remplacent avantageusement une médiocre version scénique. Il y en a encore une demain au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Italienne à Alger. Il y a eu de très beaux Rossini, de très beaux Wagner. Bref, ne méprisez pas les versions de concert, mais aussi ne les aimez pas pour de mauvaises raisons. Il y a suffisamment de bonnes raisons pour aimer la version de concert.
Merci beaucoup Christian Merlin pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr, en podcast et puis pour cette réflexion passionnante sur le sujet.
Et à bientôt.
Mais oui, vous êtes formidable Christian, bonne journée.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Je vais profiter que vous soyez encore dans le studio, Christian Verlin. Vous avez reconnu?
Mais non, mais vous faites des quiz maintenant. C'est le procédé est déloyal.
C'est pour ça vous mettre sur le grill dès le matin. Non, mais c'est quelque
c'était
chose de moins connu. Giuseppe Verdi.
Allons bon.
Allons, Alzira.
Ah ben voilà, oui, non mais c'est bon, ben
voilà,
c'est, ça y est,
une petite rareté ce matin.
Ouh là là là. Mais vous croyez qu'on va être dénoncé sur tous les réseaux sociaux pour ignorance, crasse?
Mais nous disons musicologue, mais il y a quand même encore un petit peu de travail, Christian. L'orchestre de la radio de Munich et Lamberto Gardelli à la direction ici pour cet enregistrement. On va continuer avec une pianiste que j'aime beaucoup, Anne Le Bozec, qui nous convie pour la première fois à un événement pluriartistique en plein cœur de la Bretagne. Il s'agit du festival Stèle Sonore, qui se déroulera du 30 juin au 1er juillet, dans une ancienne école de filles du Wellgoat, si je prononce bien, qui est devenue une galerie d'art contemporain, une maison d'édition. C'est un lieu assez particulier, à proximité de la forêt et de son chaos rocheux. Un festival assez mystérieux, puisqu'on nous promet des concerts dont nous n'avons pas l'habitude, notamment parce qu'ils sont donnés à des horaires tout particuliers. Ce sont des concerts dits cardinaux, qui démarrent dès 6h du matin, qui sont donnés au rythme de toutes les 6h. Il y a des croisants prévus pour les leftos, hein, Christian, je vous rassure.
Vous me connaissez bien.
À la fiche, donc, la pianiste Anne Le Bozec, mais aussi Cyril Laine, la soprano Françoise Masset, le violoncelliste Alain Meunier, Brenda Poupard, mezzo-soprano. Anne Le Bozec, que je vous propose d'écouter ici avec une chanteuse qu'elle accompagne très régulièrement en concert et au disque, Isabelle Druet, avec une chanson de clown signée Ernest Chausson. chanson de clown d'Ernest Chausson pour bien rigoler ce matin avec Isabelle Druet, Anne Le Bozec au piano, extrait d'un disque enregistré par les deux musiciennes. C'était sous le label Nomad Music il y a 2 ans, 7h56. Bonjour Sophie Anastasio.
Bonjour Saskia Deville.
C'est l'heure des dépêches.
Bonjour à tous. Hier, Françoise Nyssen a annoncé l'extension de l'expérimentation du Pass Culture à un 5e département. À la rentrée s'ajoutera donc le Finistère. L'exceptionnelle vitalité culturelle de la Bretagne justifie pleinement ce choix, explique la ministre. Il rejoindra les 4 premiers départements choisis, le Bas-Rhin, la Guyane, l'Hérault et la Seine-Saint-Denis. Jonas Kaufmann a reçu les insignes d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Le ténor a été décoré des mains du directeur de l'Institut français de Munich. Il est récompensé pour son talent et son affinité culturelle avec la France. En Hongrie, l'Opéra National a dû annuler 15 représentations de la comédie musicale Billy Elliot à cause d'une campagne de presse homophobe. Un journal proche du gouvernement a publié des articles particulièrement virulents sur ce spectacle qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui choisit de se consacrer à la danse classique. Cette campagne a entraîné une chute importante de la vente des billets. Ces dernières semaines, les campagnes homophobes se sont multipliées dans le pays. Simon Rattle dirigera son dernier concert à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin dimanche prochain. Le chef britannique quitte la direction musicale de l'ensemble après 16 années de bons et loyaux services. Pour l'occasion, France Musique revient sur le parcours de celui qui fut, peut-on lire, bien plus qu'un directeur musical pour l'institution. Création d'un label discographique, multiplication des actions pédagogiques et mélange des répertoires, tout ceci est à lire sur notre site francemusique.fr. Et toujours sur France Musique, ce dimanche, c'est une tribune des critiques de disques un peu particulière qui vous attend. À l'occasion de la fête de la musique, ce sont 4 auditeurs qui ont été invités à élire la meilleure version du concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Nice Matin a rencontré l'un d'entre eux, Lionel Vasse, pharmacien à la Trinité. Fidèle auditeur de notre antenne, et on le remercie, il fait part de son appréhension quelques heures avant l'enregistrement, c'était hier. Moi, je suis sûre que ça s'est très bien passé. Pour le découvrir, rendez-vous ce dimanche à 16h.
Mais c'est bien normal d'écouter France Musique, c'est quand même la meilleure radio.
Exactement,
Sophia.
Je suis tout à fait
d'accord. On vous retrouve à midi pour les prochaines dépêches notes.
Sur la meilleure radio, à tout à l'heure.
Bonjour, c'est Elsa Boublil. Vous voulez connaître les goûts musicaux du PDG de Warner Music, Alain Lanceron ? Il les dévoile dimanche, 9h, dans Musique et Moi. Musique et Moi, c'est le dimanche de 9h à 11h sur France Musique et sur francemusique.fr.
Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Grazia.
Samedi 7 juillet, dernier concert de jazz de la saison. Thomas de Pourquerie, saxophoniste, chanteur et artiste de l'année aux Victoires du Jazz, fonde le sextet supersonique et rend hommage au répertoire cosmique et libertaire de Sun Ra. En première partie, les saxophonistes Eric Pro et Jean-Charles Richard s'amusent avec la théorie des jeux du mathématicien américain John Nash. Le 7 juillet à 20h au studio 104 de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
Vendredi 22 juin, merci de nous choisir, il est 8h. Olivier Denré présente le journal. Bonjour Olivier.
Bonjour Saskia, bonjour à toutes et à tous. Dans 2 mois, la Grèce ne sera plus sous la tutelle de ses créanciers. Il y a quelques heures maintenant, les ministres des Finances de la zone euro sont en effet parvenus à un accord. Il va permettre à Athènes de reprendre les commandes de son économie. Les autorités vont donc retrouver des marges de manœuvre sans pour autant être totalement libres de leurs mouvements, puisque des mécanismes de surveillance vont être maintenus avec des contrôles réguliers à la clé. Marie Vienno.
Comme tout accord entre la Grèce et ses créanciers, c'est un donnant-donnant. Côté grec, les autorités s'engagent à poursuivre et mettre en œuvre jusqu'au bout les réformes adoptées pendant les 8 années d'assistance financière. Tous les trimestres, la Grèce devra transmettre à l'Eurogroupe ses données financières et fiscales contre une fois par an pour tous les autres pays de la zone euro. L'Eurogroupe surveillera ensuite les politiques du gouvernement et si elles sont bien conformes, la Grèce pourra recevoir de l'argent supplémentaire qui provient des intérêts que les États de la zone euro ont engrangés en lui prêtant. Donc en gros, la plus-value faite sur la dette grecque reviendra à la Grèce si elle poursuit les réformes. De leur côté, les créanciers ont modifié les conditions dans lesquelles la Grèce devra les rembourser. Certains prêts ont été étendus de 10 ans. Voilà pourquoi on parle d'allègement de la dette grecque, mais il ne s'agit en aucune façon d'un effacement. Enfin, la dernière tranche de prêt sera finalement de 15 milliards d'euros. Athènes espérait 20 milliards. Selon l'Eurogroupe, cela permet à la Grèce d'être autonome financièrement pour les 22 mois prochains et de ne pas être obligée d'emprunter au marché financier dans l'immédiat. 22 mois au moins, donc sans crise, mais ensuite il faudra voir sur la très longue durée, car la dette grecque s'étale jusqu'en 2060.
Comment en finir avec le glyphosate d'ici la fin du quinquennat? Le gouvernement n'ayant pas voulu que l'interdiction de cet herbicide soit inscrite dans la loi, les ministères concernés par ce dossier sensible invitent aujourd'hui tous les acteurs pour tenter de mettre en place un plan de sortie. Nicolas Hulot et son collègue de l'agriculture, Stéphane Travers, ont donc donné rendez-vous aux agriculteurs, aux industriels, aux élus locaux et aux chercheurs pour avancer ensemble sur des alternatives. Anne-Laure Barral.
Sur tous les cas étudiés par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, seuls 10% sont dans une impasse technique, c'est-à-dire qu'il ne reste que l'arrachage des mauvaises herbes à la main, et cela concerne quand même 4% des surfaces en grande culture, mais aussi les agriculteurs qui produisent des semences, ou encore du lin ou des fruits à coque. Dans la vigne, c'est difficile aussi pour certains vignobles très pentus où les tracteurs ont du mal à passer. Certains viticulteurs ont laissé pousser les herbes entre leurs plants. S'ils ont eu une perte de rendement, au bout de 5 ans, ils ont retrouvé un sol plus en forme et de nouveau leur production précédente. Ensuite, l'INRA ne se prononce pas vraiment sur la possibilité de se passer du glyphosate en 3 ans parce que cela dépend des exploitations, de leur taille, si elles font tourner peu de cultures sur une même terre. L'Institut préconise une combinaison de solutions mécaniques, de biocontrôle. D'autres herbicides sont possibles, mais ils seraient pires pour l'environnement et la santé. Ensuite se pose la question du coût pour les exploitants s'ils utilisent des techniques qui leur prennent plus de temps et plus de main-d'œuvre.
La loi sur le secret des affaires définitivement adoptée par les parlementaires, le texte est toutefois contesté devant le Conseil constitutionnel via un recours déposé par les sénateurs socialistes. Au Nicaragua, les évêques ont décidé de rejoindre la ville rebelle de Masaya. Par leur présence, ils disent vouloir éviter un nouveau massacre alors que les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle de cette cité située à une trentaine de kilomètres de la capitale Managua. La ville est considérée comme l'épicentre d'une contestation qui a déjà fait dans le pays 187 morts et plus de 1000 blessés. Fanny Bouvard.
Masaya est connue comme un véritable bastion de résistance contre le pouvoir central. À la fin des années 70, les habitants ont même pris fait et cause pour Daniel Ortega et la révolution sandiniste, et donc contre le dictateur Somoza, alors à la tête du Nicaragua. Presque 40 ans plus tard, Masaya est toujours aussi combative et demande sans détour le départ d'Ortega. En 2 mois, des groupes d'opposition se sont formés et armés, quartier par quartier. Ils ont monté des barricades, des barrages sur tous les axes principaux, et la ville est devenue une cible pour le gouvernement. Impossible de dire combien de morts ont fait exactement les combats quotidiens dans Masaya, et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui s'est rendue sur place à la fin du mois de mai, n'a pas encore dévoilé son rapport. D'ailleurs, d'autres organismes internationaux tels que l'Union européenne et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme viennent d'être invités au Nicaragua pour enquêter sur la situation. C'était l'une des exigences des évêques qui organisaient ce week-end la médiation entre opposition et gouvernement. Les discussions ont même été suspendues le temps que les invitations officielles soient envoyées. La médiation devrait donc reprendre prochainement pour évoquer en priorité l'organisation d'élections générales anticipées dès 2019, soit 2 ans plus tôt que prévu.
Du soleil sur la plus grande partie du pays, quelques nuages sur la façade atlantique. Les températures iront cet après-midi de 17 à 33 degrés, Saskia Deville.
Merci beaucoup Olivier Denry, on vous retrouve à 9h pour les prochaines informations. À plus tard.
À tout à l'heure.
À réécouter sur francemusique.fr.